I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Je me suis retrouvée à un moment où j'avais tellement eu l'impression, mais ça c'est les relations abusives, les relations d'emprise, je vivais plus pour moi. J'existais plus vraiment, je savais plus qui j'étais, je me définissais par cette personne. Par ce qu'elle me disait de faire, parce qu'elle m'autorisait à faire, parce qu'elle m'autorisait pas à faire. Et j'ai fait part d'intuition, j'ai pas dit je suis trans, je veux transitionner, parce que c'était pas encore clair à ce point-là. Mais ça a été, vraiment ces deux phrases, je m'en souviens, ça a été non, ça n'existe pas et t'as pas le droit.
Ouh là là, c'est la décadence, hein. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. On les aime et c'est contre nature. Hein.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de
Contre nature.
Tiens, c'est une façon différente de le faire.
Je l'ai monté un peu.
Tu peux nous la refaire pour
contre nature.
Très bien. Écoute, nous aimons bien les versions différentes.
C'était pour harmoniser.
Ça se voit que tu l'as travaillé. Ouais. Il y a un petit air de comment je vais la faire différemment.
On vient pas ici pas préparé.
Ah, c'est clair. Bon, nous oui. Nous.
Si vous êtes sur YouTube ou si vous êtes sur Spotify, vous reconnaîtrez certainement. On est aujourd'hui avec Lexi, the one and only Lexi. J'ai l'impression de dire ça de tout le monde, mais vraiment Lexi. Pour le coup, c'est vraiment quelqu'un qui est connu énormément dans la communauté parce que c'est.
Elle fait un travail exceptionnel, une figure.
Pour donner la visibilité aux personnes trans, aux personnes non binaires et vulgariser tout ça et donner le max de visibilité. Donc nous, c'est un honneur que tu sois avec nous aujourd'hui.
Et accessoirement, si vous pouvez aller la suivre sur le compte Aggressively Trans.
Bienvenue.
Sur Instagram, c'est hyper intéressant. Et même si vous n'êtes pas une personne trans, justement, venez vous renseigner aussi parce que tu débriefes aussi sur plein de sujets pour les personnes qui n'ont pas forcément les termes ou le jargon et qui peuvent justement s'intéresser et comprendre aussi les luttes et tout ce que, enfin, tout ce qui tourne.
Moi, depuis le début, mon boulot à la base, c'est de faire de la vulgarisation complètement dans autre chose. Et des formations professionnelles, c'est resté. Et je crois qu'on sait tellement peu de choses vraies sur les transidentités que. Autant finalement se reconvertir et garder nos compétences et
en plus
au bon endroit.
Mais pour énormément de monde, t'es vraiment la référence pour la figurine transgenre, pour vulgariser tout ça, pour comprendre. Et je pense que de tous les comptes transgenres, parce qu'il y en a de plus en plus qui éduquent par rapport à ces questions-là, le tien, c'est le plus. C'est la référence, tu vois, c'est très clair. Il y a une façon d'analyser justement les sujets qu'on retrouve pas ailleurs. Enfin, c'est très précieux. Ce que tu dis est très précieux.
Mais
tu
c'est gentil. Je ne sais pas. Bref, alors, c'est l'un des trucs. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais avoir vraiment conscience de l'impact de tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Moi, je n'y arrive. Enfin, je vois rien. En fait.
Ah ben, non, on te confirme ton impact. Hein, ouais, vraiment, c'est gentil. Et à chaque fois que, enfin, si on parle lexion, si on parle agressive trans, c'est vraiment, il y a que du bon de toi. Et c'est.
Waouh.
Ah non, mais vraiment.
Non, mais c'est vrai. Rassurant. Mais c'est vrai que c'est quand même des boulots très solitaires. Oh. Donc. Okay, ouais, bah, bien sûr. Et vous êtes deux. Encore.
Ouais, C'est vrai.
Mais ouais, donc c'est. J'essaye d'être utile, je fais en fonction de ce que je sais faire et je sais vulgariser, je sais faire de la recherche, donc j'essaye d'être utile.
Et puis ça fait longtemps qu'en fait on se parle en off à des événements et on se dit tout le temps.
Toutes les prides, toutes les existences.
On se dit on va se voir, il faut que tu passes sur scène.
C'est quand la première fois qu'on s'est vu du coup?
Mais je crois que c'est la première année de nos comptes respectifs parce que ça fait 5 ans que vous avez pas.
Ouais, ouais.
Et ça fait 5 ans que j'ai le mien. Et je crois que c'est quand on a fait une sorte de petit prendre un verre entre personnes qui ont des jeunes comptes militants au Bonjour Madame.
Mais on s'est, pas, on s'est connu avant quand même, il me semble.
On
non
s'est vu avant.
Mais il me semble
alors,
que oui.
Alors ça devait être l'existence.
Existence,
je crois que c'était
peut-être.
Parce que je me souviens, là, une des premières prêtes qu'on ait faites, tu vois, on commençait Paint vraiment, et tout le monde nous disait vous rencontrez, il y a Alexis. Et nous, on arrivait sur la scène parisienne, on connaissait personne, on connaissait aucun compte. Donc tu vois, et tout le monde nous disait Alexis. On était ok, si vous la voyez, vous nous dites où elle est et tout. Et en fait, on t'avait raté.
Et depuis,
on t'avait pas vu.
Non, après, à chacune, j'ai eu le droit à tu peux répondre à ta question.
Et vraiment, Alexis, d'ailleurs, on a une question. Ouais.
Et depuis, regardez tout ce chemin qu'on a parcouru.
C'est clair. Mais c'est cool en plus de le parcourir ensemble et de s'épauler dans les différentes questions.
Et tu vois,
parce
là,
voir, et de voir les trajectoires, les angles qu'on prend. Et ouais, c'est beau. Et puis ça fait quand même 5 ans, c'est pas rien. Même quand on se côtoie pas forcément au quotidien, c'est 5 ans à savoir d'une façon dans nos vies. Quoi.
C'est clair.
On arrive, on a pris un peu de temps pour y arriver, mais on arrive au début du podcast de l'épisode où on demande à l'invité, du coup, deux anecdotes, une qui est vraie et l'autre qui est fausse. J'avais complètement zappé, limite, on partait déjà dans la discussion que je me suis dit, attends, on n'a pas
loupé un truc. On a trop de choses à se dire là.
Donc du coup, on va te demander une vraie et une fausse. Et à la fin du podcast, tu nous diras laquelle était vraie et laquelle était fausse. On t'écoute.
J'ai raté mon permis 4 fois, à chaque fois en cassant la voiture.
Il y a des gens comme ça. Donc,
Casse dans la voiture.
Ah, mais tu as cassé la voiture à chaque fois?
À chaque fois. Ah, les quatre essais.
Ah non, mais j'espère que c'est pas vrai.
Ou, quand j'étais en coloc, l'un de mes surnoms c'était Dracula parce qu'un jour j'ai fait une fellation sanglante à un homme.
Waouh, wow, là tu nous as sorti un level d'anecdotes.
J'ose pas trop deviner laquelle est vraie.
Et maintenant il faut attendre.
Oh waouh.
J'avoue que c'est.
Moi je veux savoir maintenant.
Il y a du level là. Il y a du level.
Et toi tu dirais quoi comme ça d'instinct?
J'ose pas trop. J'ose pas trop dire laquelle. Tu sais, le truc du permis, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de gens qui sont très maladroits au volant.
Et c'est dur de conduire.
Ouais, c'est vrai que c'est pas évident.
Ça dépend.
C'est pas intuitif.
Ouais, non, ça dépend pour qui.
Il y a des gens vraiment, c'est un.
Enfin, je dis ça,
je suis pas le meilleur conducteur, mais genre mon mec, par exemple, il a une facilité pour ça, quoi.
Ouais.
Toi, tu dirais quoi du coup?
Moi, je pense que j'ai bien le permis de conduire parce que ça me paraît quand même, genre, c'est possible. Enfin, l'autre aussi, c'est possible, hein, ceci dit. Bon, on verra. On va apprendre à plus te découvrir à travers ce podcast et peut-être qu'on en déduira qu'en fait, c'est le deuxième. Hein. Who knows?
Ok, bon, bah écoute, restez bien jusqu'à la fin, on découvrira ensemble.
Dans tous les cas, vous saurez.
Dans tous les cas, on saura.
En fait, les deux étaient faux.
On voulait commencer ce podcast surtout parce que beaucoup de gens te connaissent, mais d'à travers ton prisme plus de militante et puis plus politique. Et en fait, on aimerait amener ce podcast plus à te connaître, toi, Alexis, même en dehors de tout ça. Et la première question, c'est quel est ton premier souvenir d'enfance?
Il n'est pas forcément très joyeux. Je viens d'une famille de militaires et l'un de mes premiers souvenirs d'enfance, c'est pas comprendre pourquoi je n'avais pas mon papa chez moi. Okay. Parce qu'il partait en mission, mais des fois, à l'époque, quand il a fait la Yougoslavie, il a fait la Bosnie, enfin, il a fait vraiment... il partait des fois 6 mois, vraiment d'un bloc dans l'année, donc... Et je pense que mon premier souvenir d'enfance, c'est ça, c'est le fait qu'il y a ma mère, il y a mes deux sœurs. J'entends parler de papa, on l'appelle des fois, mais c'était très compliqué techniquement. Et en même temps, il n'est pas là, alors qu'à l'école, les copains, les copines avaient leur papa. Je pense que c'est ça.
Tu ne comprenais pas?
Non, je crois que je ne comprenais pas vraiment.
Et tu n'avais pas expliqué ou on ne t'avait pas expliqué?
Je pense qu'on m'a préservé.
Ah, okay,
parce que je savais qu'il était militaire, ça, il n'y avait pas de problème. Mais en même temps, à l'époque, quand tu es très jeune, qu'est-ce que ça veut dire être militaire vraiment? Et je pense qu'on n'a pas forcément voulu me dire qu'il était concrètement sur un champ de bataille où il y a des mines partout. Et enfin, je pense qu'on a voulu me préserver de ça et que du coup, c'était très flou.
Ok. Et du coup, comment était ton enfance ? Où est-ce que tu as grandi et comment était ton enfance ?
Bah, elle a quand même été très, très joyeuse et du coup, elle s'est préservée. On a déménagé à peu près tous les 4 ans, 4-5 ans. Donc moi, je suis née dans l'Est, mais sans que ce soit du tout les origines de ma famille ou quoi. Vraiment, je suis née dans une caserne qui s'appelle Châlons-en-Champagne.
Châlons-en-Champagne,
si tu nous écoutes. J'adore.
Vous avez, ils s'appellent comment les habitants de...
Les Chalonnais, je crois.
Les Chalonnais.
Châlons-en-Champagne.
Je suppose. On a déménagé, mais il y a eu la Guyane, il y a eu la Réunion, il y a eu le Sud-Est, il y a eu le Sud-Ouest.
Ouais. Tous les 5 ans, tous les 3 ans.
Ça dépend en fait de là où tu es. Par exemple, quand tu t'es muté en Outre-mer, ça peut être que 2 ou à 3 ans, tu peux demander 3. Et puis il y a d'autres endroits, en fait, c'est vachement plus longtemps.
Okay.
Donc ça dépend des endroits, mais en moyenne, ouais, c'était 4-5 ans.
Okay.
Donc on a beaucoup bougé, mais je l'ai vécu comme une chance. Et déjà dans l'enfance, je l'ai vécu comme une chance. Mais parce que je pense que c'est. Quand on te l'apprend et quand on te fait pas savoir que c'est pas le mode de vie de plein de gens, tu te rends pas compte. Mmh. Et ce dont je me rendais compte, c'est que j'avais l'impression qu'on voyageait, qu'on allait en vacances en fait à chaque fois. Donc et dans des endroits très différents, des cultures très différentes. On m'a aussi donné la curiosité de comprendre là où on allait, comprendre les endroits, comprendre les gens. Donc je l'ai vécu comme une chance. Je pense que ça m'a aussi aidé plus tard, rapport à mon identité, tout ça, à prendre du recul, à se dire en fait, il y a plein de choses que tu connais pas, que tu comprends pas. Donc, et finalement, c'était une enfance joyeuse.
Et tu le vivais pas comme une injustice ? Parfois, tu sais, quand les enfants, ils ont des amis dans une certaine zone, ils ont pas envie de partir pour ne pas, perdre leur repère.
Pas tellement, parce que on arrivait à garder contact dans un premier temps. Et puis, c'est vrai qu'il y a un moment où bon, le contact se perd un peu, mais c'était pas quelque chose de triste, en fait. C'était juste une habitude qui se perd. Donc non, vraiment, l'injustice, non, jamais.
Et t'as des frères et sœurs ?
J'ai deux sœurs aînées.
Vous êtes proches, du coup ? Enfin, est-ce que, du coup, le fait d'avoir grandi comme ça, est-ce que vous êtes proches parce que vous connaissez le fait de toujours devoir déménager, ouais, devoir partir mais par contre, entre vous, vous êtes quand même très proches ?
Oui, très. Très. Et puis, famille méditerranéenne. Donc, je pense que vous connaissez ça.
Ouais, mais ça veut dire quoi, ça, du coup ?
Mes deux parents sont du sud de l'Italie. Donc ouais, ça nous a rapprochés. Aujourd'hui, on est plus proche par la force des choses, mais oui, ça avait joué clairement. Ouais.
Et dans un groupe d'amis, t'es quel genre de personne ?
Je pense que je suis un peu la personne plutôt calme, mais qui choisit quand elle va sortir sa connerie.
Ok. Imprévisible.
Ouais. Et puis clairement, je suis un peu Stéphane Bern, toujours dans le groupe.
Ça veut dire quoi,
en histoire de l'art, j'aime la culture, donc forcément, dès qu'il y a une question. Oui, mais Lexi, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que les papes, ils ont quitté Rome pour Avignon ? Oui, c'est tout à fait. Bon, voilà. Okay. Je pense que j'ai un peu cette double casquette la chronique culture et en même temps, j'aime bien quand même de temps en temps pouvoir sortir une connerie.
Oui, trop bien. Du coup, de par les témoignages qu'on a pu faire justement avec des personnes trans, nombreux sont celles qui nous disent que les premières pensées à la transidentité, même si ça n'est pas dire que c'était la transidentité, remontent justement à les premières années de leur vie.
Ouais.
Est-ce que c'était le cas pour toi aussi ?
Ouais, je fais partie de ces personnes pour qui, aussi loin que je me souvienne dans ma petite enfance, justement quand j'essaye de réfléchir à mes souvenirs les plus loin, je réfléchis à moi que comme étant une fille. Vraiment.
Ok.
Vraiment. Je voyais bien qu'on ne me traitait pas comme les petites filles autour de moi, mais en fait, ça ne m'atteignait pas tellement. C'était pas mon... Moi, je savais, et les autres, c'était pas
mon... Mais à quel âge tu prends cette... Enfin, à quel âge t'as construit... Enfin, c'est toujours
mais en
depuis
fait,
le début.
Je ne sais même pas si c'est juste prendre conscience ou si c'est juste que pour moi, c'était comme ça, tu vois. Et vraiment, quand... on habitait en caserne ou en lotissement militaire, et il y avait... par exemple, la coiffeuse qui passait tous les temps pour toutes les familles, ou pour tant de familles. Et du coup, on se réunissait chez quelqu'un et à la chaîne, les enfants se faisaient coiffer. Et moi, l'un des souvenirs que j'ai, mais je dois avoir 4-5 ans, c'est que c'est l'époque de moi, Lolita.
Alizé ?
Ouais, donc okay. Alizé.
je l'ai.
Quand même. Et toutes mes copines se font faire, tu sais, le petit carré très, très lisse, très, très droit.
Comme Alizé, ouais.
Et je voulais le carré d'Alizé. Et moi, on m'a dit, bah non, pas toi. Et je comprenais vraiment pas pourquoi pas moi. Alors du coup, bon, bah, je ne l'ai pas eu, mais pour moi, il n'y avait pas de...
Oui, c'est toujours l'extérieur qui te fait, qui te fait dire oui. Qui tu es. Ouais. Ou, alors que...
C'était ça, c'était quand on était à l'école, tu sais, on fait du sport, on fait les jeux, il fallait aller avec les garçons. Je disais, ah, mais non. Enfin, mais bon, j'y allais, bon, j'obéissais. Mais vraiment, pour moi, c'était clair et net que j'étais une fille, quoi. Et ce n'était pas du tout un... Je me posais moi-même pas plus de questions que ça et ça, enfin, tout allait très bien. Hein.
Oui, mais justement, est-ce que, enfin, tu te posais pas de questions, mais est-ce que tu souffrais ou est-ce que tu te sentais mal justement quand on te disait non ou quand on te disait va avec les garçons ?
Non, ça c'est venu plus tard. Vraiment dans l'enfance, c'est vraiment le truc de bon, ben, les adultes, ils doivent avoir leurs règles à eux.
Ok, ok.
Des bizarres, eux. Ouais, ils cataloguent
les
gens.
C'était vraiment. Bon, bah, ils me disent de faire comme ça, je fais comme ça, mais ils se trompent.
Mais comme quoi, ça reflète que dans la société, dès qu'on est tout petit, on te met déjà dans une catégorie où si tu es femme, on te traite comme ça, si tu es homme. Et que même les adultes se permettent de t'interdire certaines choses sous prétexte que tu es d'un genre ou d'un autre.
Ça, et qu'on a, quand même des normes tellement rigides qu'on ne réfléchit pas. Alors que, encore, bon, on était dans les années 90, ça a beaucoup changé. Mais ça montre à quel point on n'a pas réfléchi les possibilités qu'il existe autre chose, alors que cette autre chose, il existait déjà.
Bien sûr.
Ouais. Mais c'est pour ça aussi que voir le chemin qu'on a parcouru, c'est...
Et tu avais beaucoup d'amis. Est-ce que tu avais plus d'amis filles, plus d'amis garçons ? Est-ce que tu avais un groupe varié ou...
J'ai mis très longtemps à avoir des amis garçons. En fait, l'âge adulte. Mes études supérieures.
Ah, carrément,
ouais, les études supérieures. Un peu au lycée, mais en fait, ça a toujours été ces trucs où c'est les garçons dont j'étais secrètement amoureuse et avec qui je m'entendais bien. Mais sinon, ouais, les études supérieures, avant ça, c'était quasiment exclusivement des filles.
Okay.
Et tes parents, comment ils... Enfin, bon, du coup, plus ta maman, si ton papa devait... Peut-être moins, mais comment ils t'ont éduqué par rapport au genre ? Est-ce que tu te sentais...
Eh bien, de façon très, très souple. Quand j'ai commencé ma transition, qu'on a vraiment... ça a été une aventure de famille, et ça, depuis le début, mes parents voulaient que ce soit une aventure de famille. On a forcément fait ces trucs de, tu sais, le trip down memory lane, où on réfléchit, on repense à... Et en fait, on s'est rendu compte, on a sorti les albums photos, que ce soit les imprimés dans lesquels ils m'habillaient, que ce soit les jouets, ça a toujours été très, très neutre, ou alors très codé féminin. Y a des photos de moi dans les poussettes où j'ai, tu sais, les turbulettes.
Non, mais, c'est quoi les turbulettes
Tu sais, le truc dans lequel on met les enfants où il n'y a pas de pied, qui est une espèce de sac un peu confortable dans lequel ils dorment.
Okay. Comme un...
Un Mac ?
Un Mac ?
Non, c'est...
Vous voyez ce que
en
c'est
haut, ça fait salopette. Oui, une espèce
de couette. Ah, ok, ouais, que tu peux porter comme ça. Et tu portes le bébé comme ça.
Un sac de couchage.
Ah, ok. Ouais.
Et donc, j'en avais une à fleurs.
Ah, bah comme quoi ?
Rose, jaune, verte. Et j'ai toujours eu les jouets que je voulais. Donc, si j'avais envie à un moment d'avoir la ferme Playmobil, j'avais la ferme Playmobil. Si j'avais voulu des Barbies, j'avais des Barbies.
Trop chouette, ça.
Et mes parents eux-mêmes, quand je piquais les costumes de Cendrillon à ma sœur, ont jamais cherché à dire non, il n'y a jamais eu de honte. Et j'ai même l'impression qu'il n'y a même jamais eu, parce que des fois, ce n'est pas de la honte, mais il y a quand même une sorte de gêne ou de jugement qui peut être transmis. Et je ne l'ai jamais ressenti d'aucun de deux.
Même ton père, de ton père qui
même
est plus militaire.
Qui est très militaire.
Okay. Comme quoi, hein.
C'est très... mon père a une histoire de vie très compliquée et s'est engagé dans l'armée un peu comme le seul truc qui pouvait le maintenir en vie. Et de fait, il y a un attachement un peu viscéral à une idée de fraternité militaire, de... et quand ma mère lui a dit a priori on va avoir un garçon, il était quand même très fier d'avoir. Moi, on m'a toujours dit que quand il l'a appris, il a dit ouais, il pourra défoncer des portes à coups de poing.
Truc très militaire,
tu peux,
finalement.
Tu peux le faire, ceci dit. Hein.
Oui, bon, je peux, c'est vrai. À quoi ça sert ?
À quoi ça sert ? C'est une autre question.
Mais du coup, oui, non, même lui a pas jamais cherché. Mais c'est aussi quelqu'un qui, parce qu'il a une histoire de vie si compliquée, même en étant militaire, il a toujours été très introspectif. Il a toujours réfléchi aux questions de santé mentale, aux questions de spiritualité aussi. Donc, je pense que je suis tombée sur le père militaire, peut-être le moins militaire.
Le plus déconstruit,
de l'histoire.
Que les autres. Trop
vraiment,
bien.
J'ai eu de la chance, vraiment.
Et du coup, c'est quand la première fois que tu formules ou que tu te rends compte de ce qu'est la transidentité ?
Alors, je m'en souviens assez bien. C'est un tellement vrai. un épisode de Tellement Vrai. Je sais pas si vous
attends, Tellement Vrai, on recontextualise. Tellement Vrai, c'était
j'adore que tu me regardes
de Mathieu Delormeau sur W9 à l'époque.
Ah, ok, je crois qu'on
tu sais, c'était des espèces de
déjà Mathieu
de
Delormeau.
Ouais, ouais. Bah, mais à l'époque, on... bon, oui, à l'époque.
Et c'était quoi du coup?
C'était ces espèces de tranches de vie, mais toujours avec des thèmes un peu bêtes.
Oui.
Et
oui.
C'était toujours tourné un peu.
Des fois, c'était scénarisé limite ou fake.
Oui. Et il y a un épisode de ce Tellement Vrai, je dois avoir 14 ans, qui suit une fille trans, qui a été rejetée par ses parents, qui, je crois qu'elle habite à Strasbourg, qui a pris un studio, le seul truc qu'elle peut se payer, un studio de 8 mètres carrés au 12e étage, sans ascenseur, et elle est filmée, donc elle explique qu'elle n'a plus personne dans sa vie, personne ne lui parle, et elle est filmée dans son appart qu'elle n'a pas les moyens de meubler, sur, vous voyez les chaises en plastique de jardin blanche là?
Oui, oui, ça, oui.
Toujours
ça,
par se casser.
Oui.
Elle a ça dans son salon et une table. Elle est filmée toute seule sur cette chaise, en train de manger une baguette de pain. Elle a pu se payer que ça.
Super la représentation, ouais. La première image. La
et
première...
donc, c'est vraiment le premier, tu sais, où tu mets le doigt, tu comprends des trucs très très vite comme ça dans ta tête, ça s'enchaîne, tu vois les images qui défilent, tu te dis « Oh, je pense que c'est moi, mais en même temps, si c'est ça, je ne veux pas. » Donc non. Et de fait, mon adolescence derrière, ça a été essayer de tout faire pour être un vrai homme, un vrai
et
garçon.
Et t'avais quel âge là quand tu...
Je devais avoir 13 ou 14 ans.
Ah, donc cette séquence, t'a un peu traumatisé,
oui,
quoi.
Oui, clairement.
Parce qu'avant 13-14 ans, même à l'école et tout ça, on te genrait... Enfin, est-ce
que... J'étais genré comme un garçon, okay. J'étais... considéré comme un garçon, mais en même temps, j'avais toujours mon petit monde à moi, où clairement, c'était plus flou, beaucoup plus flou que ça.
Tu continues à penser que c'est eux qui avaient tort, enfin, que
je pense que j'ai doucement perdu mon évidence d'être une fille, mais que pour autant, je savais que j'étais pas un garçon, et que j'ai été un peu dans cet entre-deux, vraiment jusqu'à la puberté et l'adolescence, où il y a cette séquence horrible de cette fille, dont j'espère qu'aujourd'hui, elle va très bien. Et en même temps, on rentre avec ma famille d'une mutation à La Réunion. On se rapproche de la famille de ma maman dans le sud-est et j'ai un oncle qui s'est fait une mission de me rendre viril. C'était dès que je le voyais, c'était maintenant faut que tu te coupes les cheveux. J'avais déjà les cheveux très longs. Mmh. Maintenant faut que tu te coupes les cheveux, arrête de pleurer, t'es trop sensible, trouve-toi une meuf.
Il va te faire un bootcamp pour être homme, quoi.
Un oncle, t'as dit ?
En pinçant, ouais, un oncle.
Mon oncle maternel. Heureusement que c'était pas ton père. Enfin, tu vois quoi.
Si tu m'entends, tonton, tu sais.
You know.
Wow. Et du coup, ouais, toi, tu devais, enfin, ça devait être très perturbant pour toi de dire, moi, je suis cette personne. Pourquoi est-ce qu'on me force à être quelqu'un d'autre ?
Ça et la puberté où clairement, en fait, les changements de mon corps, comme beaucoup de personnes trans, je me suis mise à me dégoûter.
Tu te souviens
et
de ce que tu pensais ?
Et pour le coup, si j'ai vécu à un moment une injustice, c'était ça. C'était pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi ? Donc la superposition de tout ça fait qu'à ce moment-là, il y a vraiment une espèce de répression et j'ai essayé de performer le truc, mais je pense aussi qu'il y a quelques, enfin c'est pas si rare que ça dans la communauté, le truc de me dire bon bah je vais faire de la muscu, je vais me laisser pousser la barbe, je vais essayer quoi.
Je vais essayer de rentrer dans ce qu'on attend de moi.
Ouais, ce fut un échec.
Oui.
T'as tenu combien de temps?
Bah des années.
Des années, quand même.
En faisant du yo-yo, en m'autorisant quand même des écarts de route, mais en essayant vraiment quoi.
Donc t'as essayé de viriliser en fait pour rentrer dans ce qu'on attendait de toi.
Ouais.
Et est-ce que tu avais des référents de personnes trans autour, ou à part cette une image d'une pauvre personne qui mange sa baguette, mais...
Non, même pas. Même pas. C'était vraiment le truc où je me suis dit, donc il me semblerait que ça existe, mais ça n'a pas l'air... Mais à part ça, non, vraiment pas. Vraiment pas. Quand j'y pense, maintenant, rétrospectivement, je me dis que la seule image que je devais connaître, mais sans mettre le mot ou sans l'identifier comme ça, c'est Christian Clavier dans le... Dans le Père Noël et tout le
voilà. Ah oui, donc, bon.
Pareil, le niveau est... Super. Mais je pense qu'à l'époque, ado, j'ai vu le film, je pense pas au personnage comme une personne trans.
Et à quel moment est-ce que tu commences à comprendre la transidentité, mais avec des vrais mots, avec des... Tu vois, des...
Mais tard, en venant sur Paris pour mes études supérieures.
T'avais quel âge ?
Je suis arrivée, j'avais 18 ans.
Ok.
Donc, tout début de vingtaine...
Et comment tu te sens pendant toute cette avant cet épisode, enfin avant que tu puisses mettre des mots sur la transidentité, quand tu vois que ton corps commence à changer, t'as peur, est-ce que par exemple tu fais de la dysphorie pendant ces années?
Oui, j'ai fait des tentatives de suicide.
Ok.
J'en ai fait. Alors pas ado, c'est venu plus tard, mais ado j'ai développé une anorexie et de la boulimie parce que l'idée c'était vraiment de contrôler. Et j'avais entendu, c'était l'époque aussi où on entendait beaucoup parler à la télé, radio des blocs pro-ana. Et à l'époque, on ne parlait pas du tout, mais même encore aujourd'hui, on n'en parle pas très bien des troubles alimentaires. quand on voulait parler du fait qu'il y avait ce danger des blogs pro-anorexie, en fait, les médias te balançaient tout, quoi. C'était, il y a ces blogs pro-anorexie qui existent, vous pouvez les trouver là, 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 et ils vous disent de faire ça, 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 ça. Enfin, c'est un danger public. Et j'avais entendu que quand on est anorexique et quand on fait des crises de boulimie, ça suspend la puberté et... Il y a plein de signes qui... Donc, je me suis dit, bah, en fait, c'est ça qui va...
Donc, toi, tu voulais bloquer, en fait, ta puberté de la façon...
La pilosité, la prise de... Mais c'est paradoxal parce qu'en fait, je faisais du sport en me disant, il faut que je me virilise. Mmh. Et j'ai fini par être anorexique et boulimique en me disant, il faut que je sois... faut que je revienne à un état où mon corps... on ne me disait pas que c'était un corps de garçon.
Qu'est-ce qui aurait pu empêcher, justement, cette anorexie et cette boulimie?
Mais savoir qu'il existe des personnes trans, c'est un peu ce à quoi on arrive aujourd'hui, en fait. Mmh. Avoir des référents clairs et entendre que c'est pas mal, c'est pas une maladie, c'est pas dangereux, c'est pas... clairement.
Est-ce que tu aurais voulu prendre des bloqueurs de puberté si t'avais pu? Quelle est ta position sur ce débat-là que beaucoup de gens utilisent sans même connaître sujet, quoi?
Grosse diabolisation. Les bloqueurs de puberté, on a une trentaine d'années de recherche de recul dessus. Et ils sont mis en place pour des enfants cisgenres. C'est pas du tout un truc qui est pensé pour faire transitionner des enfants. C'est un outil qui est mis en place parce que la médecine et globalement la société estiment qu'il y a des pubertés bonnes et d'autres qu'il faut contrôler, qui sont limitées. Par exemple, on les prescrit à des filles cisgenres dont on estime qu'elles vont devenir trop grandes.
Ah, y a déjà, ça se prend déjà, les bloqueurs de puberté, pour...
Peut-être pour des problèmes hormonaux, des choses comme ça, c'est
en
ça
en fait, c'est pensé pour les pubertés précoces et les problèmes hormonaux.
Okay. Ouais, ouais.
Mais c'est aussi prescrit pour des trucs purement esthétiques.
Okay. Ah oui, les poils, les choses comme ça. Ouais. Quoi. Okay, oui.
Donc, on accepte dans ce cas-là et personne ne dit qu'il ne faut pas les prescrire, qu'il faut... les interdire, que c'est dangereux. Tout le monde comprend que c'est encadré, que c'est extrêmement contrôlé, qu'il y a peu de cas de prescription. Là, ça va. Si c'est un enfant qui comprend son identité et qui veut éviter les mêmes effets, parce que finalement, c'est les mêmes effets, là, d'un seul coup, il y a forcément derrière tout un lobby, tout un complot, des agents idéologiques qui influencent. Et surtout, dans un cas, c'est prescrit sans qu'on demande vraiment l'avis à l'enfant. Hein.
Oui.
C'est selon les courbes, c'est selon des facteurs. Donc, on nous ramène à la question du consentement éclairé. Dans un cas, on peut très bien l'outrepasser. Dans l'autre, quand c'est la personne qui demande, non, tu peux pas, t'es pas capable de consentir. Donc, il y a un double standard qui est évident. Il est évident aussi qu'il faut que ce soit extrêmement contrôlé et que c'est pas des bonbons. Mais bon, le double standard et les effets que je pense que ça aurait pu avoir sur ma santé mentale font que je conçois pas qu'on l'interdise sans que ce soit une mise en danger, en fait.
Donc aujourd'hui, tu penses que ça aurait été quelque chose qui t'aurait beaucoup aidé si on t'avait proposé...
Oui, je pense, bien sûr.
Et est-ce que tu aurais dit à partir d'un certain âge ou pas?
Non,
pour savoir, parce que c'est vraiment un débat que les gens ont beaucoup
bien sûr,
et facilement,
oui,
en fait.
Ça fait vraiment partie.
Ils ont un avis assez tranché et surtout très rapidement parce qu'ils n'ont pas les faits, les données et l'information derrière. Et en fait, les gens préfèrent avoir un avis sans avoir toutes ces infos.
C'est classique, mais pour donner une idée d'ordre de grandeur, je n'ai plus les chiffres précis en tête, mais c'est ceux de la CPAM, donc les chiffres officiels en France. Je crois qu'en 2020, c'est quelques centaines de personnes qui ont fait la demande à Paris. Donc, c'est pas non plus... pareil, il y a cette idée de la contagion. Maintenant, tout le monde veut transitionner. Non. Factuellement, non.
Non, après ça, c'est... Attends, mais c'est légal? C'est pas légal, si, en France les...
Si, c'est légal. Si. Mais on est un peu un de ces pays où c'est encore plus contrôlé. Y a vraiment... C'est très encadré. Et on est le pays à l'échelle de l'Union européenne qui les donne le moins, je crois.
Oui,
donc vraiment,
c'est pour ça qu'on doit faire beaucoup plus d'éducation sur ces questions pour comprendre.
Il ne s'agit pas de dire « donnez-les facilement ». Il s'agit de dire, comprenez que si on les donne, il y a une raison.
Oui, et donner la parole aussi, encore une fois, aux protagonistes, donc aux personnes trans, aux enfants trans. Hein. Mais c'est ça que je ne comprends pas, c'est que, bon, après, c'est risqué de donner la parole aux enfants trans parce que c'est les mettre en danger directement vis-à-vis de la transphobie quotidienne en France. Mais écoutez ce que les personnes trans ou les enfants trans vous disent. Enfin, ce n'est pas une lubie, ce n'est pas une folie, c'est une réalité.
Je vous jure que Big Pharma ne nous paye pas. Sinon, les choses seraient plus simples, je vous assure.
Et du coup, à quel moment est-ce que tu en parles à tes proches, à ta famille?
Dans la vingtaine, en début de vingtaine. J'ai eu une première relation qui a été extrêmement abusive entre mes 18 et mes 21 ans. Et c'est la première personne à qui j'ai parlé de mes doutes et de ce retour à une prise de conscience. Et on m'a dit non. On m'a dit non, ça n'existe pas. Et on m'a dit, t'as pas le droit.
Ton couple ?
C'est qui on ?
Mon partenaire à l'époque. Okay.
Tu n'as pas le droit d'être une personne trans, c'est ça ? Enfin, techniquement,
je suppose. Parce que moi, en fait, j'avais pas encore le mot, j'ai pas dit le mot, mais j'ai clairement dit, j'ai des souvenirs, j'ai des trucs qui reviennent. J'avais aussi pu avoir accès aux soirées drag, à la communauté LGBT ici à Paris. Donc, il y a des intuitions qui reviennent, tu vois. Et j'ai fait part d'intuition, j'ai pas dit, je suis trans, je veux transitionner. Parce que c'était pas encore clair à ce point-là. Mais ça a été, vraiment, ces deux phrases, je m'en souviens, ça a été non. Enfin, c'est même pas une phrase, ça a été non. Ça n'existe pas et t'as pas le droit.
Wow. C'est violent pour une première...
Oui, mais en même temps, c'était une relation d'emprise. J'ai été battue, j'ai été... Donc, voilà.
Par ce partenaire.
Ça a fini par prendre fin. Et en fait, je me suis retrouvée à un moment où j'avais tellement eu l'impression, mais ça, c'est les relations abusives, les relations d'emprise, je vivais plus pour moi. J'existais plus vraiment, je savais plus qui j'étais, je me définissais par cette personne. Parce qu'elle me disait de faire, parce qu'elle m'autorisait à faire, parce qu'elle ne m'autorisait pas à faire. Et j'ai eu l'impression, ça a été la plus belle chose que j'ai réussi à faire de ma vie, j'en serais toujours fière, je me remercie de l'avoir fait. Mais en même temps, concrètement, j'ai été plus rien. J'ai eu une période de 2 ans de dépression où je ne sais plus qui je suis, je ne sais pas quoi faire de ma vie. J'ai fait des tentatives de suicide à ce moment-là parce que superposer la fin d'une relation qui est aussi compliquée, le fait de prendre conscience qu'on est trans, ça a été très compliqué. Et donc, les tentatives sont arrivées à ce moment-là. Et il y a un moment où je me dis, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas qui t'es, tu ne sais pas ce qui se passe. Du coup, tu décides de tout comme tu veux. Et c'est là que j'ai fait des coming out. C'est là que j'ai commencé vraiment activement à me dire comment on fait une transition. Il y a aussi eu le déclic de la vidéo de coming out d'Océan, moi, qui a vraiment été le truc de me dire donc tout le monde peut, donc moi aussi.
C'était ta première approche de quelque chose de plus positif, ouais, vis-à-vis de la transidentité.
Ça est vraiment, encore une fois, vraiment la scène drag à Paris, qui inclut beaucoup de personnes trans et où il y a vraiment cette question sur le genre. Ça a été vraiment les premières célébrations des questions de genre, de transidentité. Et ça a été des déclics.
Ouais, tu te souviens un moment où tu t'es rassurée en voyant ça, en disant oh, en fait, ça va.
Ouais, Océan, c'est vraiment le truc. Je le suivais déjà avant, j'aimais bien son travail. Puis c'est quelqu'un qui avait aussi des positions féministes, fortes, donc je me reconnaissais et j'admirais déjà Océan. Et le fait de voir quelqu'un de connu, je me souviens que dans sa vidéo, littéralement, je crois qu'il dit « Aujourd'hui, si je ne fais pas ça, moi, je suis épuisé de vivre. » Ça m'a parlé parce que je me retrouvais là-dedans. Toutes ces périodes de questionnement et tout, ouais, c'est épuisant. Donc je me suis dit « Waouh, je ne suis donc pas seul et en plus, on a le droit, qui qu'on soit. » Moi aussi.
Tu vois ce qu'a été Océan pour toi. Toi, tu l'es pour énormément de monde aujourd'hui. Et
je
comme
sais
quoi,
vraiment
c'est...
pas.
Ah si, on te le confirme, mais à 100%. Et c'est pour ça, c'est l'importance d'avoir des référents, des référentes.
Ça, dans tous les cas, c'est sûr.
Et des gens qui sont là pour te dire c'est possible et tu n'es pas seul et ça va le faire, tu vois. Hop, 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 on fait une toute petite pause juste pour vous parler du sponsor de la vidéo qui est nul autre que...
Water Drop. Donc, qu'est-ce que c'est Water Drop ? Ce sont des petites capsules comme ça.
Qu'on appelle des micro-drinks.
Micro-drinks qui donnent du goût à l'eau.
Pas de sucre surtout, c'est important à préciser. Donc, ça donne un peu un très bon goût à votre eau sans sucre. Ça va vous faire boire beaucoup plus d'eau. Sur leur site, ils ont tout plein de bouteilles et d'autres accessoires. C'est beaucoup mieux que d'utiliser des bouteilles en plastique ou des verres en plastique. Vous utilisez des gourdes. Allez-y, allez sur le website, allez voir un peu tous les produits qu'ils ont. Vous avez 10% de remise avec Pain 10 et encore plus de remise sur d'autres produits.
Et encore un grand merci à Water Drop pour la confiance.
Yes, on reprend l'épisode tout de suite.
Moi, je me demande un truc. Vous avez d'autres jumeaux où ils sont tous les deux LGBT qui vous contactent pour vous dire « Waouh !»
Il y a plein de jumeaux homo. Hein.
Oui, oui, qui nous est contacté pour dire genre merci. Enfin,
non, pas encore.
Non, qui nous disent allez, merci pour ce que vous faites, mais pas genre grâce à vous, on s'est assumé, je pense. Ah, non,
par rapport à l'homosexualité ?
Oui, genre qui se soit assumé grâce à nous. Des homos, hein. des jumeaux.
Ah, des jumeaux. Ah oui, non. Parce que j'allais dire.
On a beaucoup de jumeaux
qui
nous écrivent, mais pas en mode grâce à vous deux en étant jumeaux.
Non.
J'aimerais bien dire oui, mais.
Si c'est le cas, allez-y, manifestez. On veut des jumeaux.
Mais d'autres personnes, oui, mais pas forcément des jumeaux.
Non, mais c'est pour ça que c'est important qu'on soit tous et toutes présentes. Et nous, justement, Paint, on avait pensé Paint parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas de représentation à l'époque, ou très peu, des personnes transgenres, tu vois.
Ah, mais il y a 5 ans. Exact. Le temps d'existence mais, du compte, ça,
bah, c'est ça.
L'évolution.
Mais pareil, des lesbiennes au final, tu vois. Oui, et bah, en fait, et des personnes non binaires et tout ça. Et on s'est dit, on va créer un compte dans lequel tout le monde va se réunir. Tout le monde va essayer de comprendre les problématiques des uns des autres. Parce que clairement, il y a une échelle de privilèges dans cette commu. Ouais, on va pas se mentir, il y a quand même quelques. Enfin, il y a des catégories entre guillemets
qui existent encore aujourd'hui. Hein,
oui, bien sûr.
Et donc, tu vois, créer tout cet univers. Et c'est pour ça qu'après, nous, n'étant pas des personnes transgenres, c'est difficile de parler au nom d'eux. Mmh. Donc, laisser la place et laisser les gens parler. Et parler face cam aussi, c'est tu vois, pas des trucs de à l'écrit.
Et là, c'est drôle parce que la toute première interview qu'on ait faite pour Paint, c'était une femme trans.
Ouais.
Et c'était dans le sud. Et elle s'appelle Estelle, si je ne me trompe pas. C'était en 2017-2018.
Merci Estelle, Estelle pour la confiance.
Ouais, et même nous, tu vois, on n'était vraiment pas du tout renseignés.
Non.
Donc nous aussi, ça avait vraiment été un parcours pour nous. Paint, on n'est pas rentré en mode on est expert. Non, c'est par des
interviews. Et on l'est toujours
par
pas
les rencontres.
Dit, moi, quand j'ai commencé le compte, je.
Ah, t'étais pas non plus experte.
Bah, je pense. Enfin, non.
Oui, bah, il faut commencer quelque part, c'est sûr. Oui.
Parce que. Oui, j'étais en plein début de transition, donc c'est déjà une période très particulière d'effervescence, de plein de questionnements, et tu n'as pas encore tes réponses. Il y a 5 ans en arrière, trouver des réponses claires, accessibles, en français, c'était quand même plus compliqué.
En français, bah oui, ça c'est
c'était beaucoup le YouTube américain, en fait.
Ouais, ouais.
Et même à cette échelle-là, c'était surtout le YouTube américain pour les mecs trans.
Plus que pour les mecs.
Il y a une vraie, mais c'est encore le vrai aujourd'hui. Il y a une petite, il y a une disparité dans à quel point il y a une facilité à témoigner, à prendre. Non, ça a un peu changé quand même. Mais les femmes trans ont longtemps eu plus peur de prendre la. Bah, oui,
normal. Ouais.
Et du coup, il y a longtemps eu une transmission et une expression plus dynamique dans les communautés de mecs trans. Ouais. Donc ouais, il y a 5 ans, c'était plus compliqué. Même moi, j'avais pas tous les trucs. Et j'ai aussi commencé le compte pas forcément pour éduquer. Mais d'abord pour relâcher la pression d'un début de transition où quand tu prends conscience que tu vas te prendre de la transphobie tout le temps, tu te sens très seule. Et j'avais besoin de moins me sentir seule.
T'étais entourée ou pas ?
J'ai eu de la chance, oui. Oui, mais j'ai tout de suite eu mes parents qui ont presque fait un... Enfin, on su avant moi, en fait. Qui m'ont tout de suite dit « ça ne changera jamais rien. On veut savoir, on veut être là, on sera là, c'est parti ». Et rien que ça, en fait, à côté de ça, avec mes sœurs, le contact n'est plus là. Ça n'a pas forcément été simple avec mes grands-parents non plus.
À cause de la transidentité ou pour d'autres raisons ?
Ouais.
Okay.
Une de mes sœurs, c'est la transidentité, et ça a été très clair. L'autre, c'est plus flou, mais le fait est que le résultat est là. Les cercles amicaux, pareil, ça se délite un peu. Hein, mais j'ai eu mes parents tout de suite, et ça a été le rock, et en fait, à partir de là, tout allait bien quand même. Mais c'est quand même beaucoup de flou, beaucoup de solitude, parce que même quand tu sais que tu as ce soutien, tu es confronté à plein de trucs qu'il n'y a que toi qui peux gérer. Et donc, en fait, tu es là, faut que tu te retrousses les manches, il faut chercher, et puis il faut aussi se confronter à qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui ne va pas, parce que quand on est notamment pour la dysphorie, c'est un mal-être. Mais en fait, savoir exactement ce qui est cause de dysphorie et comment ça se traduit, faut savoir le... Donc, c'est beaucoup de choses où tu restes seul quand même. Mais oui, avoir des moments et des personnes avec qui je sais que je pouvais quand même me relâcher, j'ai eu cette chance-là et ça change tout.
Et enfin, si c'est pas indiscret, tu peux ne pas répondre, mais comment ça se traduisait tes dysphories chez toi ? À quel moment et comment ?
Bah, à quel moment, je sais toujours pas exactement le dire. Il y a vraiment des détails physiques, moi, qui des complexes, la pomme d'Adam, j'ai l'impression d'avoir le front extrêmement marqué. Mais c'est vraiment des trucs, des fois, il n'y a que toi qui le vois.
Oui, c'est comme un complexe, finalement, il n'y a que toi qui le vois.
Moi, il y a eu une période au tout début, je sais que j'avais l'impression d'avoir des poignets trop masculins. C'est absurde.
Mais ça veut dire quoi, un poignet masculin ?
Mais ça ne veut rien dire en plus. Mais tu fais une fixette là-dessus et ça en vient à des pensées suicidaires, quand vraiment ça va mal. Moi, le gros truc, c'est que j'arrivais plus à sortir de chez moi. Je voulais pas qu'on me regarde, je voulais pas qu'on me voie, je sortais plus de chez moi.
Et tu te regardais dans le miroir ou pas ?
Non, justement.
Plus pas de miroir.
En fait, exister, mais juste comme ça, quoi. Mais pas pour être avec
crise,
les autres.
Quand t'es en crise de dysphorie, c'est t'attends que ça passe, t'attends de te trouver tolérable et t'essayes de te distraire en attendant.
Ça dure combien de temps, du coup ?
Ça peut être une journée complète. Moi, il y a eu des journées où j'arrivais pas à aller à la fac à cause de ça. Il y a des fois, c'est vraiment, tu sens que ça monte. Tu réussis à avoir les Parce que je pense qu'il y a aussi l'apprentissage, hein, de tu le sens monter, tu vois que ouh, là, ça, je sens que ça ne va pas. Mmh. Et tout de suite, tu sors le suite dans la communauté. On a vraiment le suite de la dysphorie. Mmh. Tu te dis, bon, bah là, je mets tel morceau de musique où je sais qu'il m'empêche d'avoir les pensées automatiques, que je mange un truc. Et tu fais bloc, mais c'est très variable d'une personne trans à l'autre, et même toi dans ton quotidien d'un moment à l'autre.
Et en revenant à ton compte Agressively Trans sur les réseaux sociaux, deux petites questions. Déjà, pourquoi Agressively Trans? Mais surtout, est-ce que tu te souviens de ta première publication sur le compte?
Non, je ne me souviens pas de la première publication, sachant que la première publication, si vous remontez très en arrière aujourd'hui, ce n'est pas la première. Il y a eu des archives de trucs dont j'avais honte, que je ne me souviens pas.
On ira fouiller.
Agressively Trans, parce que le compte est créé sur un coup de tête pendant les vacances de décembre, quand je retourne chez mes parents à Tours, après une période de partiel d'examen à la fac, où j'ai vu passer dans un groupe de travail sur WhatsApp des messages sur moi où on m'insulte. Je pensais que, très naïvement, qu'en arrivant dans mon master de recherche en histoire de l'art, dans une spécialité qui parle beaucoup de multiculturalisme, d'ouverture sur d'autres cultures, je me disais, ça va être trop bien. On va tous être passionnés, on va échanger plein de trucs.
C'est de l'anthropologie aussi, non ?
Il y avait de l'anthropologie, ouais, aussi. Et il y aura, on sera dans la curiosité de l'autre. Et je tombe sur ce groupe WhatsApp où, pour préparer deux partenaires pour préparer un exposé, ils disent ah non, on se tape l'autre travelot. Ouais. Donc, et en fait, prendre conscience que toi, tu vas mieux. Toi, tu prends en main ton truc, tu prends en main ton destin, tu chevauches ta destinée vers l'horizon. Que vraiment tu vas mieux, tu te sens enfin revivre, parce que c'est ça, hein, après des tentatives de suicide, tu te dis, ça y est, je recommence à vivre. Voir que d'autres ne veulent pas de toi, ne voudront pas de toi, quoi que tu fasses, et vont aussi, là c'était discret, mais à côté de ça, il y avait aussi les applications de rencontre où clairement, on fait l'effort de t'envoyer un premier message pour te dire, tu es un dégénéré, prends une lame de rasoir et voilà. Prendre conscience qu'on ne voudra pas de toi et qu'en plus, on va faire le truc de te mettre des bâtons dans les roues alors que toi, tu vas enfin mieux. J'étais trop en colère. Et donc, le compte, au début, Agressively Trans, c'est pour juguler cette colère, de dire, bah, dans tous les cas, vous nous mettez en colère. Dans tous les cas, quoi qu'on dise, quel que soit le ton qu'on va prendre, on sera toujours trop en colère pour vous. Et puis, il y avait un peu ce truc de colère féministe, de la colère, ça peut être sain. Et j'y crois vraiment très fort à ça. Donc, c'est pour ça. C'est l'idée aussi de faire un pied de nez à ça, parce que je pense que j'essaye d'avoir un ton qui est au contraire plutôt bienveillant. Donc ouais. Il y a l'idée de, même avec ce ton-là, vous trouverez que je suis agressive. voilà, pourquoi le nom. Et je regrette pas, je trouve que c'est... Mmh, on retient.
Oui, c'est marquant, et surtout tu as une histoire derrière qui est très symbolique aussi. Donc,
Oui, bah, qui est longue. Voilà, mais oui.
Et tu trouves que tu as trouvé chez les femmes un soutien? Bah justement aujourd'hui en cette journée ou pas? Non.
Aujourd'hui, maintenant, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Mais concrètement, je sais où vous voulez qu'on en vienne. Ah, je le sais, j'ai compris.
Ah non, vraiment pas.
Si moi, j'ai une petite idée derrière la tête, mais...
Non.
Ah non, oui, bah donc tu le dis non, moi, c'était vraiment pas
mais on va y aller.
Non, mais on va y aller, on va y aller. Non,
ouais, non. Attends, on parle pas, peut-être pas du même, la
si,
même
si,
chose,
on
mais
on parle
je pense
la même chose,
si,
je pense. Mais moi, je te jure que ça, c'était pas pour ça, mais du coup, je veux vraiment savoir.
Le boulevard, il y est.
Le boulevard, il y est, mais c'était pas du tout prévu. Ok, ouais.
T'es aventuré dans ce boulevard.
Le compte était un point de vue. Moi, avant de vraiment être une personne queer et politisée comme personne queer, je me suis politisée même en étant perçue comme garçon, comme alliée féministe. Toutes mes copines ont toujours été féministes. J'ai grandi dans cette famille avec des femmes fortes qui ont transmis des valeurs féministes, même sans s'en revendiquer forcément. Toutes mes amies étaient très adeptes de Mademoiselle à l'époque, du contenu de Marion Séclin, des contenus qui sensibilisent au féminisme. Mmh. Donc ça a vraiment été ma porte d'entrée dans l'éco-social, la politisation. Et en comprenant et en m'autorisant enfin à être la femme que je suis, je me suis dit, je sais que je vais avoir des endroits de sororité où on va me comprendre et on ne va pas me juger. Bon, non. Il y a 5 ans, mais en même temps, ce n'est pas récent, depuis les années 60, la présence des femmes trans dans les espaces féministes, ce n'est pas acquis, et il y a même des volontés actives de nous exclure. Pour plein de raisons, pour plein de justifications, il y a vraiment des théories concrètes qui réfléchissent les questions matérielles, économiques, qui se reposent là-dessus pour dire les femmes trans ne peuvent pas être des femmes à part entière, donc on n'en veut pas. Et de fait, on me l'a beaucoup renvoyé. Que ce soit volontaire ou pas, que ce soit conscient ou pas, on me l'a beaucoup renvoyé. Et c'est dur émotionnellement. Et après, quand le compte s'est vraiment politisé et devenu vraiment un espace militant, ça a aussi été un truc de colère. Et ça n'a pas été acquis, loin de là. Mais le chemin se fait. Tout le monde a toujours mille choses à apprendre. Et c'est normal. Et là-dessus aussi, ça s'est fait. Et finalement, il y a encore 2 ans, la grosse marche nous toutes en novembre, j'étais invitée à prendre la parole à la fin de la marche. Donc, c'est que les choses bougent.
Mais quel était le premier groupe où tu t'es sentie à l'aise et tu t'es sentie, toi ?
Ben, c'est les groupes amicaux, en fait. C'est vraiment déjà des espaces de sororité, quand on y réfléchit. Ça a vraiment été, oui, mes groupes, ma coloc, les groupes à l'école du Louvre quand j'y étais, mais qui étaient en même temps ma coloc aussi. Hein, donc, c'est ce petit entre-soi qui... Ça et ma mère. Coucou maman.
Qu'on a rencontré d'ailleurs.
Oui,
ouais,
c'est vrai.
Ouais, ouais. Oui. À une existence du coup.
Ouais.
Et aujourd'hui, du coup, on est le 8 mars.
On est le 8 mars.
C'est quoi comme date ? C'est la journée de la femme.
Internationale des droits des femmes.
Exactement. Et qu'est-ce que tu penses de cette date ?
Bah, qu'elle est nécessaire. Qu'elle est encore trop nécessaire. Bah attention, je vais faire de la politique, mais quand on voit que on vient de faire entrer la possibilité de recourir à l'IVG dans la Constitution, quand on voit quand même qu'il y a une petite pirouette autour de ça, que c'est pas vraiment la protection du droit à l'IVG, que c'est pas l'obligation de fournir des IVG à qui le veut, donc la possibilité de disposer de son corps exactement comme on le veut, ça montre qu'il y a quand même toujours, même s'il y a des avancées, disons que ces questions, ces avancées, les questions des droits des femmes, est encore beaucoup une question de symbole pour nos responsables et pour beaucoup de gens dans la société. Je lisais sur Simone Média, bonjour Simone, que 39%, 39% de la population française, il n'y a pas de distinction de genre, mais bon, voilà, estime qu'on en demande trop pour faire avancer les droits des femmes.
On en demande
on
trop.
On demande trop d'efforts, de fournir trop d'efforts.
Ah oui,
faire...
genre désolé, c'est trop difficile.
Donc, le 8 mars, il est encore absolument nécessaire. Et il est nécessaire chez nous, il est nécessaire en Palestine où les droits des femmes sont absolument bafoués, où il y a des viols qui sont commis. Il est nécessaire aussi en Israël où l'antisémitisme monte, ici en France où l'antisémitisme monte. Il est nécessaire en Iran où il y a une révolution menée par des féministes. Il est nécessaire aux États-Unis où Roe versus Wade, le droit à l'IVG a été retiré des droits fédéraux. Il est nécessaire en Argentine où le nouveau président veut vraiment faire reculer la cause des droits des femmes. Il est nécessaire en Russie où Poutine prend des mesures toujours plus anti-LGBT, toujours plus anti-féministes. Il est nécessaire, cette date, cette lutte, elle est nécessaire partout.
Moi, je le disais plutôt notamment par rapport aux femmes trans. Ouais. Simple fait de dire que peut-être aujourd'hui, ce n'est pas assez de dire les femmes trans sont des femmes.
Non,
il faut...
ça ne l'est pas.
Voilà, justement, c'est trop simple. Pas. Alors, c'est vrai et il faut le dire.
Exactement.
Mais il faut aussi dire tout ce qui va derrière, qui est qu'en fait...
Qu'en termes de chiffres...
Ouais. Dis-nous, du coup.
En termes de chiffres, que ce soit économiquement, la question de l'accès à l'emploi, la question de l'écart salarial, la question des violences subies sur le lieu de travail, que ce soit en termes de sous-représentation dans les espaces de pouvoir, les chiffres qui concernent spécifiquement l'exclusion des femmes trans et celle des femmes cisgenres, on est quasiment à chaque fois dans une fourchette de 2, 3, 4% d'écart. Et souvent, c'est les femmes trans qui sont plus touchées. Donc, en termes de conditions de discrimination matérielle, on est trans, c'est une féminité qui est différente, c'est une féminité. Et elle est traitée comme la féminité de la majorité des femmes cisgenres. Donc, oui, on a notre place dans ce combat et le fait que ce soit nous qui en parlions va dans le même sens et a le même but.
Bah, du coup, ça, on peut continuer sur cette marche. toutes les femmes ne sont pas de cet avis.
Absolument.
Et ne sont pas du tout ouvertes à dire que toutes les femmes sont des femmes.
On les appelle des...
Des TERF.
Ouais.
Si vous avez pas... enfin, je pense que si vous nous écoutez, vous avez déjà entendu le terme, il me semble. Mais c'est, enfin, c'est important de rappeler.
C'est quoi, trans exclusionary?
Trans exclusionary radical feminist.
Exactement, plus qu'ils se disent féministes. Et donc, on peut te laisser. Enfin, on sait très bien, donc, c'est un groupe qui s'attaque particulièrement à toi parce que tu parles.
En France.
En France, en France.
Ouais.
Parce que tu parles justement de toutes ces questions. Est-ce que tu veux nous en dire plus dans... à hauteur de ce que tu peux, forcément?
C'est pas une nouveauté. C'est un mouvement idéologique qui existe depuis la fin des années 60, qui se base sur une thèse qui est publiée en 69, donc qui fait son chemin, hein. C'est très présent. Aux États-Unis, plus largement dans le monde anglo-saxon, elles ont une présence qui est institutionnelle, on les écoute politiquement, notamment en Écosse. Donc, c'est pas récent, et on parle pas de petits groupes de mascus sur 4chan. Il y a un vrai poids. En France, ça a longtemps été plus discret, en tout cas plus restreint aux espaces lesbiens et féministes. Et effectivement, depuis 5 ans, quel hasard, 5-6 ans, disons un peu plus quand même, il y a une prise de parole qui est plus ouverte et qui est plus affirmée comme une position anti-trans de la part de ces personnes. J'ai pas aidé parce que, en fondant le compte et en étant très en colère et en voulant une sororité inclusive, moi j'ai pas réfléchi à comment tu parles de tout ça, et j'ai juste dénoncé et balancé des gens. Et en étant l'un des premiers comptes en français, en France métropolitaine, qui parle de transidentité, maintenant la guerre est ouverte, quoi.
C'est là qu'il faut être nous solidaires, enfin toute personne solidaire justement. C'est pour ça que l'idée aussi de la communauté LGBTQIA+, c'est vraiment que tout le monde se batte auprès de, enfin avec chacun, tu vois. Parce que par exemple, moi, un truc qui m'attriste beaucoup, c'est la montée aussi des lesbiennes
ouais, y en a.
TERF. Il y en a de plus en plus. Ouais. Je sais qu'à Londres, je crois qu'il y a un bar qui va ouvrir.
Qui est financé par J.K. Rowling.
Voilà. Et je ne sais pas si c'est celui-là, mais en tout cas, c'est un bar lesbien.
Ah non, tu parles de l'inclusif ?
Ouais.
Oui. Ah oui, non.
C'est un bar lesbien, lesbien TERF qui veut ouvrir. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Et quand je vois que, quand je vois que les lesbiennes ou bi ou pan sont aussi TERF, ça m'a envie de dire. Tu vois, genre, ouais. Jusqu'où on peut aller, quoi, dans cette exclusion, et pourquoi, ouais. En fait ?
Mais en fait, je peux vraiment je peux comprendre. Je comprends le réflexe de se poser une question quand on n'a jamais entendu parler de personnes trans, quand on n'a jamais rencontré une personne trans dans sa vie, quand on ne sait pas ce que ça veut dire être trans, quand on n'est que confronté à Tellement Vrai et Christian Clavier. Je peux comprendre que quand on entend qu'il y a des femmes trans qui veulent une place dans le féminisme, on puisse a priori se dire « je ne comprends pas pourquoi et je ne suis pas pour ». Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, quand on a toutes les ressources à disposition, quand on a des données chiffrées, quand on a des femmes trans qui s'expriment, on continue de décider qu'on ne veut pas. J'avoue. En fait,
maintenant qu'on a toutes les informations, qu'on a des personnes qui en parlent.
À ce stade-là, en fait, c'est plus juste qu'on ne sait pas et qu'il y a ce réflexe à vouloir se protéger et protéger ces espaces parce qu'on n'en a pas beaucoup. C'est vraiment juste une volonté active. Et moi, ça, je ne le pardonne plus.
Tu penses que c'est par peur que les gens font ça ? Enfin, par ignorance ?
En partie. Je pense qu'il ne faut pas négliger. Je pense qu'il y a une partie de peur. Je pense qu'il y a une partie de manque d'accès à des vraies informations qui rassurent et qui font voir que oui, en fait, on fait front commun. Mais je pense qu'il y a aussi une partie de volonté de ne pas partager les espaces. Il y a une partie peut-être d'ego aussi dans les espaces féministes à se dire, non, c'est nos espaces. On les a construits pendant des décennies. Je ne vois pas pourquoi d'un coup, on devrait vous donner de la place. Je pense qu'il y a de ça. Même sans forcément qu'il y ait derrière de l'idéologie, mais que, en fait, les dernières arrivées, non. Vous devez aussi prouver que vous méritez, qu'on vous fasse de la place. Et il y a aussi purement de la volonté idéologique et politique. C'est vraiment un éventail.
Tu en parlais tout à l'heure, justement, et donc vous allez voir. Je pense que quand la vidéo sortira, ce sera déjà sorti, mais on a fait une vidéo ensemble pour le site d'Action.
Oui.
Et je pense que la vidéo sera déjà sortie.
Elle est trop belle.
Ouais, j'ai hâte de voir le résultat. On parlait un peu d'Instagram, justement, les réseaux sociaux, et du fait que justement on peut prendre très cher, on peut avoir des messages directs insultants, menaçants, etc. Certaines plus que d'autres. Toi, tu as quand même, enfin, tu me disais justement, je sais pas combien de messages haineux tu reçois par jour, mais
alors,
comment est-ce que tu fais face à ça ?
Je sais pas moi-même, mais j'en reçois tous les jours.
Comment tu fais face à ça ? Comment est-ce que tu te défends par rapport à ça ?
Je suis pas sûr de savoir comment je fais.
Tu vas chez le psychologue ou pas ?
Oui, ah bah oui, oui, ça va.
Bon, déjà ça aide.
C'est absolument nécessaire, vraiment d'avoir un bon suivi. Clairement, j'ai besoin. Il y a aussi des moments en fait où Instagram ça n'existe pas dans ma vie.
C'est-à-dire ?
Je l'ouvre pas de la journée, j'y pense pas.
Tu fais des petites pauses quand même.
Oui, il y a des. Par exemple, si j'ai à préparer, je prends lundi, mardi pour préparer mes journées, mes posts, je sais que je les poste le vendredi, samedi. Une fois que c'est préparé, mardi, mercredi, jeudi, j'ouvre pas.
Ok.
Il y a aussi le fait de se souvenir qu'on n'est pas des gens d'Instagram. C'est professionnel. Il y a aussi une mission. Oui, il y a un sentiment de devoir le faire. Mais je suis pas Instagrammeuse. Moi, ça fait pas partie des étiquettes que je me mets. Et si ça devait arrêter de marcher ou si Instagram devait crasher et disparaître, mais en fait, j'ai 20 000 autres choses que je veux faire dans ma vie et qui me motivent et par lesquelles je me définis. Donc, en fait, avoir ce truc-là, quand même, ce recul-là, ça aide à comprendre que les messages ne sont pas forcément déjà des messages de la vraie vie où on veut vraiment te faire ce qu'on peut te dire. Et mine de rien, même si ça fait peur, c'est quand même un peu apaisant. Et puis, ça aide à se dire que ces gens-là, ils n'existent pas, moi, dans mon quotidien. Enfin, je dis ça, j'ai été agressée en vrai par des gens qui m'ont reconnue. Donc, un peu nuancé. Mais disons que c'est mettre des portes. C'est un long couloir. Et mettre des portes entre toi et le fond du couloir où il y a Instagram. Et t'ouvres quand tu veux. C'est toi qui décides, c'est toi qui contrôles ça.
C'est quand même une charge mentale énorme, même si tu fais des pauses.
Mais cela dit, même pour vous. Enfin,
oui, mais franchement,
mais
non.
On est
parce
deux,
que,
au moins.
Oui,
mais
on est deux, mais en fait.
Mais vous faites aussi beaucoup plus en termes
de. Oui, mais en fait, on parle.
De...
C'est pas un compte sur nous. On se montre pas tant que ça, justement, parce qu'on veut montrer la communauté. Donc, en soi, si on a des commentaires parfois sur nous, mais c'est surtout les personnes qu'on peut inviter ou les personnes qu'on présente. Donc, nous, on est.
Et accessoirement, les violences par rapport aux personnes transgenres sont quand même, ils vont se le dire, sont quand même beaucoup plus violentes. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, en étant lesbienne blanche et gay blanc, il y a quand même un certain privilège.
C'est plus les mêmes volumes, mais c'est plus les mêmes idées. Oui. Ouais.
Mais il y a quand même un certain privilège. En termes de violence,
ça s'est normalisé
avec ce fameux.
Non, mais tu vois, justement, aujourd'hui, quand avant, c'était quand il y a 30 ans, c'était plus. Voilà.
Et du coup, je disais, avec cette charge mentale, est-ce que tu as déjà eu des fois où tu as voulu tout laisser tomber ton compte.
Mais encore de temps en temps.
Ouais. Hein. Et est-ce que c'est quelque chose que tu vois faire dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans ?
Non. Non, parce que... Non, parce que... je ne suis pas sûre d'être encore pertinente dans 20, dans 30 ans, vu... Tout bouge, je vais essayer parce que je veux pas être une vieille boumeuse. Mais je ne sais pas si je serai encore pertinente. Je ne sais pas si la forme... Je ne sais pas si j'arriverai à faire évoluer en fonction aussi des trends, des nouveaux formats, des nouveaux outils.
Mais juste te montrer, parce que les gens, ils s'attachent énormément à toi, ils sont attachés à toi et ils te voient vraiment comme une figure...
Pas d'ici 30 ans.
Peut-être. Pour moi, énormément de personnes...
Moi, je ne me projette pas du tout dans cette échelle. Moi, en tant que figure militante, vraiment pas.
Ah, tu ne te vois pas comme une figure militante ?
Militante, si. Si, bien sûr, mais je ne m'envisage pas comme une figure d'incarnation.
Ah ouais, ok.
Non.
Parce que pour énormément de monde, tu es une référence, tu vois.
Je suis visible, je le sais. Et oui, je reçois des messages où on me dit que j'inspire, que j'ai aidé à faire un coming out. Je le sais.
Et t'es écrivaine, accessoirement, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais attends.
Vrai, je fais ça aussi. mais ça encore, c'est très solitaire aussi. Hein. C'est quand même très... on a cette image très, très glamour du cocktail, du lancement d'un livre avec la flûte de champagne. Non, ça ne... malheureusement.
D'ailleurs, le livre, c'est Histoire de genre. Si vous ne l'avez pas déjà acheté, guide pour comprendre et défendre les transidentités.
Ouais. Et
qui est le livre le plus complet, j'ai envie de dire, par rapport aux transidentités qu'on ait pu voir sur le marché. Parce que...
Et il manque tellement de trucs.
Ah ouais, déjà, il y a beaucoup.
L'information que tu as dû. Nous, on s'est dit, mais comment elle a écrit ça ? Enfin, il y a tellement d'informations. Tu t'es renseigné sur les différentes cultures.
Mais alors, ça, c'était mon boulot de base, moi.
Ah
donc,
oui, c'est vrai que tu es anthropologue.
Ah oui,
t'as mis l'enjeu.
Tout ce que t'aimes.
En fait, quand on est venu me chercher pour écrire le livre, j'ai eu cette chance. C'était vraiment l'idée d'un guide très pédagogique sur plus les transitions. Et. Je dis oui au début pour signer le contrat. Et une fois qu'il a été signé, j'ai commencé à écrire et j'ai rendu un truc où il y avait de l'histoire, où il y avait du politique.
Mais t'as le droit de faire ça et t'ont pas dit genre par contre on n'a pas dit
Non, alors il y avait quand même une proposition de sommaire où je le suggérais parle de, donc ça avait été validé. mais c'était pas l'idée de base exactement.
Ok.
Mais c'était inconcevable de pas...
Ben non, mais c'est hyper complet. Donc, nous, on invite vraiment toute personne qui veut se renseigner sur les transidentités. Que vous soyez trans ou non, hein, d'ailleurs, je pense que c'est vraiment... justement pour que tout le monde comprenne les enjeux, comprenne les luttes et que on...
C'était le but, ouais.
Voilà, et que et surtout c'est accessible à tout le monde. Enfin, c'est technique.
C'était vraiment l'idée.
Mais c'est accessible. Ouais. Donc vraiment, on invite. Et est-ce qu'on peut encore le trouver en...
Il vient de ressortir en format poche.
Ah, ah, encore mieux. Format poche, c'est donc plus petit, c'est ça?
Plus petit et moins cher.
Ok, ah, bah voilà, encore bien. Plus accessible.
Ouais.
Moi, juste avant de faire la partie où on te posera des questions sur toi, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait... quelles sont les luttes qu'on devrait mener aujourd'hui en France qui sont encore... Enfin, il y en a plein. Mais par rapport aux personnes trans, qu'est-ce que tu penses qu'il faut vraiment qu'on mette plus en avant ou...
Les urgences ?
Ouais.
Les urgences, je pense que c'est des choses très concrètes. Il y a autoriser le fait qu'on en parle... Quand il y a des séances d'éducation à la vie sentimentale et sexuelle, bon déjà il y a très peu de séances, on le sait, hein, ça manque. Donc,
à l'école, tu veux dire ?
Ouais, dans le scolaire. Justement, ça revient à cette idée de mentionner le fait que ça existe. On ne vous demande pas de nous envoyer les enfants dans des camps de vacances où on va les convertir. Dites-leur que ça existe, c'est tout. Je vous assure, ça va changer des vies. Autoriser concrètement le fait de changer ses papiers d'identité, tu sais, le petit M, le petit F, là, pour de le faire, comme c'est le cas en Belgique, comme c'est le cas en Argentine, où ça marche très bien et où il n'y a pas d'abus, juste en déclaratif, en mairie, sans avoir à passer devant un juge.
Mais ça n'avait pas changé ?
Non, pas le prénom, ça a changé, ouais. Mais pas la petite mention. Ça, il faut encore un juge. Il faut être jugé.
Ah, je ne savais pas que ça, ok.
Il y a le fait de mettre en place des protocoles très clairs dans tout ce qui est administratif, dans tout ce qui est médical, parce qu'il y a encore beaucoup de flou juridique. Mieux définir la question de ce qu'est la transphobie dans nos textes de loi, parce que c'est un délit, mais c'est un délit. Mais qu'est-ce qui est transphobe ? En quoi c'est transphobe ? Qu'est-ce qu'on encourt exactement pour telle chose transphobe ? Parce qu'en attendant, ce flou, il permet juste au juge de dire bah, « moi, je trouve pas ça transphobe, donc allez, vas-y, repars ». Il y a la question des remboursements qui sont très compliqués, des prises en charge plus largement qui sont très compliquées, des lenteurs de
l'ALD notamment.
Ouais, et puis alors là, encore une fois, je vais faire de la politique, mais vu qu'il y a des politiques d'austérité qui arrivent, a priori, on va aussi être visé. On n'a pas encore une égalité dans le statut parental, les personnes trans. On n'a pas le droit d'être reconnues dans notre genre si on a fait des transitions, si on a fait les changements justement de genre. Donc égalité des droits à ce niveau-là, on n'a pas l'accès à la PMA. Mmh.
Donc c'est accès à la PMA, quand même, ce qui est choquant, ouais. Parce que c'est une victoire en soi, mais pas totalement, parce que tant qu'elle exclut.
Non, c'est teinte. Mais de toute façon, tout ce qu'on arrive à avoir, à part quand on a eu le mariage, où c'était pour le coup une vraie belle victoire, mais tout est en demi-teinte. Mmh. La question de l'adoption aussi, elle est très compliquée pour les personnes trans. Il n'y a rien de très très clair, de très concret, mais on sait qu'aujourd'hui, quand les personnes trans essayent d'adopter, bah en fait, jamais. Donc, on clarifie les choses, mais c'est beaucoup de ça, en fait. C'est éduquer, clarifier et ouvrir le sujet socialement, quoi.
Et d'autant plus maintenant que, comme tu dis, il y a des périodes d'austérité qui vont arriver. On sait que les premières personnes victimes sont toujours les personnes transgenres.
Les personnes LGBT, femmes
LGBT, mais ouais. Là en ce moment c'est un peu le truc qu'on voit aux États-Unis où on tape tout de suite chez qui.
On est devenu le mouton noir, l'homme de paille qui facilite tout ce qui est discours réactionnaire, discours conservateur et derrière les lois conservatrices, réactionnaires, mais des fois même des retours à des lois du 19e siècle, notamment sur le travestissement. Enfin, c'est ahurissant.
Et c'est pour ça qu'on appelle, à travers ce podcast ou à travers tous les contenus qu'on essaye de démettre, qu'il y ait aussi une solidarité au sein de commune. Parce que forcément, ce n'est pas des choses de seulement des personnes transgenres. C'est, on doit vraiment tous et toutes s'impliquer et soutenir.
Est-ce que t'es optimiste pour le futur de la France ?
Non.
Non ?
Non, mais ce n'est pas grave de palette.
Parce que regarde, on en parlait, en 5 ans, il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées.
Il y a eu des choses, mais il y a eu aussi beaucoup de... En fait, il y a eu des choses dans tous les sens. Quand tu regardes la libération des paroles masculinistes, des paroles... Et on les entend quand même beaucoup plus que nous, je crois. Mm. Donc non, je ne suis pas optimiste, mais je ne fais pas de mon pessimisme un obstacle à continuer d'agir et à continuer de croire quand même qu'on peut avoir un impact. Donc, je me dis, ce n'est même pas grave d'être pessimiste à la limite.
On continue à faire ce qu'on fait déjà. Et puis,
ce que tu dis quand tu parles de solidarité, je trouve quand même qu'elle réussit à se mettre en place. Et il faut continuer qu'on la dise. Effectivement, moi là, je suis en train de parler de transidentité. Je suis une femme trans, mais je suis aussi une femme trans blanche. Dans la communauté, il y a des personnes trans de toutes les religions, de toutes les couleurs de peau. Et là aussi, il faut qu'on réussisse à plus en parler. D'autant plus que on dit que c'est les personnes LGBT, les personnes, les femmes qui sont les premières ciblées, mais à l'échelle de nos, de ces communautés, quand on regarde les chiffres sur les différentes formes de transphobie, c'est toujours les femmes trans noires et plus largement racisées qui sont les plus touchées. Donc, d'autant plus besoin de faire un millefeuille de solidarité.
Trop bien, on encourage que ça. On passe.
Yes, on quitte la discussion politique deux minutes.
Mais
pour
qui
faire
est nécessaire.
Petit,
hein,
évidemment, évidemment. Mais en fait, oui, mais ce qui est hyper nécessaire. Mais après, je pense que.
J'étais venue, j'écoutais Corona Rhythm of the Night. Ouais. Ça va être fun, ça va être fun, ça va être fun. Ne parle pas que de politique. Et voilà.
Non, mais
c'est hyper important et c'est essentiel de parler politique. Mais je pense que même pour une personne, c'est. Tu vois, il y a pas que une personne n'est pas que politique
non, jamais,
et surtout
non, en plus toi t'es une personne fun, on le sait,
c'est ça,
donc
c'est ça et pour toi aussi ça peut être aussi un peu pesant de toujours devoir parler
mais après,
politique
c'est comme vous le fait d'être dans cette posture de d'interroger les autres c'est délimité à des moments
à notre personnalité aussi et tout. Mais aussi pour moi je me rends compte avec les interviews qu'on peut faire ou les questions que les personnes nous posent ça revient toujours très très politique tu vois comme si vraiment on était
mais
que
entre
ça
nous, dans ces communautés
c'est ça c'est ça
mais et encore nous parfois on nous reproche de pas être assez politique pour le coup genre
le
dans
coup,
notre contenu on est beaucoup plus parfois on n'est pas aussi pointilleux sur le
mais c'est je pense il faut aussi qu'on arrive à se souvenir qu'il y a des lignes éditoriales et qu'elles se complètent.
Oui. Alors, moi, je ne le dis même pas par notre ligne éditoriale, je le dis par rapport à nous, nos personnes. En fait, si on nous approche, c'est vraiment toujours pour parler politique et pour parler, tu vois. Alors qu'en fait, des fois, on a juste envie de parler de choses politiques, tu vois. Ce qu'on va faire tout de suite maintenant...
Oui, on va apprendre à connaître Lexie en 10 questions très basiques, mais parfois, c'est cool aussi de savoir.
Oui, bien sûr.
Ça va vraiment te limiter.
Mais vraiment basique, basique. Hein, on part sur du...
C'est Lexie en 10 petites questions. Lexie bien plus que ça, évidemment.
Si tu pouvais regarder un film en boucle, lequel serait ?
Le Marie-Antoinette de Sofia Coppola.
Il
a gagné. Non, il a pris des prix au Festival de Cannes, il me semble.
Il avait gagné. Je crois qu'il avait eu, la Palme d'Or à Cannes. Je crois qu'il avait eu un Oscar pour les costumes. Mais je
grave
peux
que je le vois. Tout le monde c'est quoi ton Disney favori?
Si tu aimes les Disney. Hein.
J'adore qu'on passe vraiment des trucs très profonds à genre.
J'hésite.
J'avoue que Disney c'est pas pour tout le monde, mais quand même.
Je vais dire Ratatouille.
Ah, je l'aurais pas attendu.
Mais enfin.
Je trouve que c'est trop. Enfin, c'est pas vieux, mais genre. C'est pas les originaux.
Non, mais je les ai pas beaucoup vus.
Ah, ok, ok.
Ah, okay donc
mon mec, il est pareil. Mon mec, il a vu aucun Disney. Je suis en mode, pourquoi on est ensemble?
Bon, après, il y a des trucs très problématiques quand tu analyses Disney. Mais bon, bref. Ton plat préféré?
La pizza.
Pizza. Ouais. Est-ce qu'on est pizza? Est-ce que avec ou sans l'ananas?
Non, mais attendez.
moi, j'adore les hawaïennes.
Maintenant, j'aime un peu moins.
Tu dis pas ça à quelqu'un du sud.
C'est vrai.
C'est vrai. Papa, ton date idéal, il ressemble à quoi? Qu'est-ce que vous faites?
On parle d'un premier ou on parle
un premier? Non, un premier.
Le premier, idéalement, c'est ton meilleur, tu vois.
Non,
pas forcément.
Non, mais je veux dire, si tu vas en date, tu veux que ça se passe le mieux possible pour ton premier date. Donc, tu veux que ce soit parfait.
Non, mais on va dire premier.
Alors, moi, premier date, je suis très team, le plus simple possible.
Okay.
Vraiment, pas de fioritures, parce que l'idée, c'est vraiment... Et aussi, pouvoir... Moi, je ne vais pas marcher, je ne vais pas faire une expo en premier date, je ne vais pas à un concert. Parce que l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur un contact assez proche et vraiment pouvoir parler de vive voix, entendre la voix de l'autre, entendre les intonations, les émotions, comment ça circule, les expressions sur le visage. Premier contact comme ça, tu sais ce qui se passe et après tu vas faire...
Donc limite tu ferais rien quoi, enfin, c'est vraiment juste une conversation
vraiment
peut-être.
Un joli endroit, un verre de vin, un peu de musique.
Ah oui quand même.
Non mais oui, il y a un cadre.
En bord de scène avec...
Moi je t'imaginais vraiment dans une salle avec genre deux personnes, tu vois genre...
Non alors
il y a comme un cadre romantique.
N'exagérons pas, je vais pas.
Et donc un autre date idéal ce serait où? Une fois que t'as fait ce premier pas de...
Mais vraiment, l'idéal, je ne réfléchis pas s'il faut de l'argent.
Non, mais l'idéal, c'est un cadre.
On va se promener, on est en décembre, on va se promener à l'Alhambra, à Grenade.
Ah ouais?
Et après, on va dans un bain. Il y a plein de bains à Grenade.
Trop drôle, Alex aussi, il a parlé de Grenade tout à l'heure.
Oui, Alex Ramirez vient nous parler de Grenade aussi.
C'est magique.
C'est un signe, on doit la Grenade, c'est
je pense que personne ne nous a parlé de Grenade en Espagne auparavant. Donc
si, vraiment, dans l'idéal de l'idéal, je dirais ça.
Si tu pouvais... avoir un tête-à-tête, un dîner ou quoi, avec n'importe quelle célébrité, vivante ou morte.
C'est pas si simple, c'est très basique.
J'allais balancer le nom du taf.
Il y a mille ans. Je pense que je vais dire... Mais moi, je ne suis pas très culture, célébrité.
Non, mais même...
Non, mais genre, ça peut être un poète ou ça peut être, tu vois, c'est n'importe qui a eu un impact ou... Genre...
Pas forcément glam, hein.
Une écrivaine.
Ok. Bah, peut-être Virginie Despentes, parce qu'il y a moyen quand même de bien s'amuser et en même temps d'être un peu en colère ensemble.
Ah bah, c'est faisable encore, ça.
Oui, en
moi,
plus.
Moi, ma réponse à cette question, ça avait toujours été J.K. Rowling avant, justement, tous les fils. Avant de savoir qu'elle était
terre. Je comprends.
Mais vraiment, je te jure. Et depuis, je suis en mode, putain, mais
moi,
non.
Mais moi, en même temps, tu vois, toutes les questions sur avec elle... personnage de fiction, vous avez, c'était toujours soit Luna Lovegood, soit Hermione.
Mmh. Ah, Luna, putain, ouais. Cute.
Quel est ton pire défaut ?
Je suis pas patiente.
Ok.
Impatiente, du coup.
Ouais, du coup, je suis impatiente. Vraiment. Ah ouais. Et en fait, ça, pas en général, mais ça s'accroche sur des trucs très quotidiens et sur lesquels je me mets tout de suite en colère et du coup, c'est pas joli à voir. Vraiment, tu vois, quand la technologie, elle marche pas comme elle devrait,
tu tapes sur le truc.
Je la laisse. Pas de deuxième chance.
Ah non, mais la même.
Ouais, j'espère que ça enregistre.
Quand je me dis...
Tu m'as juste la guille.
L'équipe technique, elle est en sueur, là. Elle se dit, oh putain.
Je vous regarde.
Ah, mais je te comprends tellement. Genre,
et moi, vraiment,
des bugs.
Mais... tu te rouges et j'ai envie.
Ah, non, mais...
Et du coup, ta meilleure qualité
Je suis curieuse. De tout, des autres. Et c'est honnête.
Qu'est-ce que tu préfères le plus chez quelqu'un
La curiosité aussi. Quand elle est bien placée, quand même. Il y a 2-3 expressions de curiosité que je n'accepte plus, mais globalement, un esprit qui veut comprendre.
Ah, ok.
Mais qu'est-ce qui te séduit le plus chez quelqu'un ?
La patience.
Non, mais comme ça, de prime abord, c'est une personne patiente.
Ça compense. De quoi ?
De prime abord, là, tu rencontres quelqu'un, qu'est-ce qui te séduirait ?
Ouais, je dirais la patience. Je trouve que ça se sent, la patience, et ça se traduit par plein d'autres qualités. Ça se traduit par une bienveillance, une forme de douceur. Donc, ouais, je trouve que c'est ça.
C'est quoi ta pire phobie ?
Les sauterelles.
Ah ouais ?
Ok. Allez, les petites ou les grandes ou qu'importe.
Toutes.
Pourquoi ? Parce que c'est imprévisible,
c'est
le truc, tu sais pas.
Mais c'est gentil. Enfin, je suis pas fan, mais c'est gentil. Les grosses, elles sont dégueulasses, je suis d'accord. Enfin,
moi, c'est
pour
les grenouilles plutôt, les crapauds et les grenouilles, mais pas les sauterelles.
Elles sautent, tu vois, les crapauds.
J'ai froid en même temps.
C'est tout petit, tu vois.
Ok, on change de.
Du coup.
Et le tout dernier, Lexi en un mot.
Impatience.
Sauterelle.
Je crois combative.
Combative. Ouais. Bah, ça te va bien.
Ouais, ça te va très très bien.
Ouais, c'est beau.
Ou agressive.
Agressive. <ouais. rire> Non. Je vous le laisse si vous avez
non,
envie.
Non, pas du tout. C'est super beau comme nom, j'adore. Ben voilà, on va revenir sur l'anecdote.
Attends, est-ce qu'on peut répondre vite fait à quelques petites questions ? Attends, il faut le faire en deux minutes. On va le faire vite fait. On répond du coup à quelques petites questions de la commu parce que évidemment, il y a Alexis avec nous. Tout le monde est en mode.
Et je vais être.
Déjà, tu le sais très bien et on le dit à tout le monde, mais là, dans ton cas, vraiment, c'est le cas. Un millier de merci, un millier de je t'aime, un millier de pas de questions, juste qu'on l'adore.
C'est trop gentil.
Il faut qu'on commence avec ça. On commence vraiment avec tout le monde. Mais là, pour le coup, vraiment. Il y en a beaucoup.
Vraiment,
et on est en mode, mais posez-nous des questions.
Il y a ce truc, je suppose que ça vous le fait aussi, on n'a pas le temps de répondre à tout le monde, alors qu'on reçoit quand même aussi dans tout ce qui peut être négatif, tellement de bienveillance.
Donc, moi, des fois, je m'étonne de la bienveillance de certaines personnes et je me dis, mais tu es trop gentil. Enfin,
c'est
tu vois,
gratuit
genre,
ouais. et c'est généreux et c'est vraiment merci.
Quelqu'un demande, quelles sont les soupapes pour s'apaiser entre chaque combat ?
Le chocolat chaud, la famille, les comédies musicales, dormir.
Et les pizzas.
Ouais,
Une amie me demande des conseils de romans de qualité abordant les questions trans.
Je lis pas de romans.
Ok, jamais.
J'ai plus le temps.
Ok.
Donc j'avoue que sur ces questions, moi, je suis essai, pas roman.
Des conseils pour les trans afin de choisir son prénom.
Essayez. Faites plein d'essais. Vous pouvez choisir absolument le prénom que vous voulez. Donc si c'est un prénom de fleur, un prénom de plat, un prénom de couleur, vous faites. Essayez à l'écrit. Vous écrivez des petits mémos, tu sais, les pense-bêtes. Tu mets le prénom, pense à faire ça. Prénom, demandez à vos amis les plus proches d'en essayer, et si vous en essayez un par jour pendant 3 semaines, c'est joyeux, ça n'engage à rien, c'est pas grave, allez-y.
On profite de cette question pour rappeler qu'on ne demande pas les dead names, donc les noms des personnes transgenres avant, c'est juste pour les personnes
vraiment,
qui nous écoutent.
Cette information ne vous apprendra rien d'utile.
Quelqu'un qui demande, est-elle célibataire et sinon, où a-t-elle rencontré son partenaire ?
Non. Non, plus depuis maintenant de longues années, mais en même temps dans une structure d'ouverture, comme plein de personnes queer, je crois. et on s'est rencontrés au Louvre.
Au Louvre ?
Ouais, quand j'y...
Mais en premier date ou en...
Non, en premier contact. Okay. C'est, en fait, quand j'étais à l'école du Louvre et le soir, des fois, on donnait des visites guidées dans le truc, c'était des nocturnes et elle était à la visite.
Trop chouette.
Et ça fait 5 ans du coup ?
7.
7 ans.
L'autre fois, quand tu m'as demandé, j'ai dit 5 parce qu'on s'est rencontrés la première année d'élection de Macron.
Un
quinquennat, c'est 5 ans, mais ça fait plus longtemps que ça, je n'ai pas voulu m'en souvenir.
Des conseils, ça c'est une question hyper importante qu'on reçoit beaucoup. Des conseils pour les personnes trans qui doivent vivre leur identité chez des parents non safe.
Ne leur en parlez pas. Si vous savez qu'ils ne sont pas safe, vous ne partagez pas d'informations qu'ils peuvent utiliser contre vous. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas out que vous êtes moins trans, que votre identité elle est moins légitime et que ça restera comme ça dans le temps. L'apprentissage de la patience, c'est une violence et je sais à quel point c'est dur. Dans ces cas-là, c'est ce qui vous évitera d'accumuler des traumas et de subir plus de violence.
D'accord.
Et trouver aussi des endroits et des gens où, au contraire, vous pouvez. Les deux.
Une autre personne qui commence par te remercier, évidemment, et qui termine par « Est-elle heureuse ?» On veut savoir si elle est heureuse.
Oui, globalement. Ouais.
Très bien.
Après, je crois que pas l'être tout le temps, c'est pas si grave que ça. Par contre, je me sens épanouie. Et ça, c'est autre chose.
Ok. Non, il faut, pas normaliser, mais se rendre compte qu'on peut pas être heureux, heureuse tout le temps et que c'est normal de pas l'être
forcément.
Mais par
contre, je sais que je me sens tout le temps épanouie.
Et ça, c'est bien quand même. Ouais, ça stimule et ça, ça donne beaucoup de...
Je te propose... Bon, on a plein de questions, mais vu qu'on doit...
Ouais, tant qu'il arrive, c'est 50.
Okay. Je veux savoir.
En début de podcast, tu nous avais donné deux anecdotes. Absolument. Tu peux nous les rappeler ?
J'ai raté mon permis 4 fois et à chaque essai, j'ai cassé la voiture. Ou quand j'étais en coloc, l'un de mes surnoms, c'était Dracula parce qu'un jour, j'ai fait une fellation sanglante à un partenaire, à un homme.
En fait, le deuxième, c'est tellement gros que je me dis à quel moment tu t'inventes un truc comme ça, tu vois.
J'ai raté mon permis.
Mais c'est quoi ?
Une seule fois.
Oh ! Et aujourd'hui, on est nuls, Céd. Hein.
Derrière la caméra, ils ont fait...
Ah ouais !
Ah, mais aujourd'hui, on rate tout notre...
On est nuls aujourd'hui. On veut l'histoire. Bah, bien sûr qu'on veut l'histoire.
Donc, j'ai eu un partenaire régulier que je voyais de temps en temps. Ça se passait très bien. Un soir, il m'invite chez lui en banlieue. Je prends le train et c'était... Quand j'y repense, c'était une soirée nulle. J'ai commencé par faire des spaghettis à la tomate. Bon, c'est quand même pas, voilà. Après, on a été dans son salon sur son canapé pour parler de jeux vidéo. On n'a pas joué aux jeux vidéo ensemble, on a parlé de jeux vidéo ensemble.
Okay.
Et puis après, il a voulu qu'on se pécho. C'était très bien, j'avais envie aussi. Hein, je pose le truc.
Consentement.
On commence à se pécho et j'ai envie d'être séductrice. J'ai gardé les cheveux lâchés. D'habitude, je les attache parce que pour plein de trucs, on sait que les cheveux dans la sexualité. Bon. Là, je les garde, voilà. Et je me mets à faire une fellation. Il y a un miroir au-dessus du lit. Je suis à la tâche. Et il y a un moment où je veux vraiment faire Beyoncé. J'ai les cheveux sur le côté. Je me relève pour le regarder de façon séduisante et je airflip en me relevant. Il se trouve qu'un de mes cheveux s'était coincé exactement à la base de son gland. Et qu'un cheveu tout fin qui va vite sur une peau très vascularisée et fine, il y a eu coupure. Je ne l'ai pas vu, j'y suis retournée. Et il y a un moment, j'ai senti qu'il y avait un goût.
Oh mon Dieu, mec.
Je me regarde dans le miroir au-dessus du lit, j'ai du sang plein la bouche.
Mais, et lui,
il l'a vu. Il s'est mis à paniquer, il a débandé immédiatement, il a couru paniqué dans la salle de bain parce que je pense qu'il pensait que c'était grave, mais c'était juste le machin. Oui, oui. Mais bon, ça saigne.
Et aussi, les hommes, ils voient un peu de sang, ils sont en mode.
T'as vu ce que peut faire un cheveu quand même. Hein. La
c'est dangereux.
T'es puissante. T'es puissante.
Paniqué, il sait pas quoi faire et il m'a mis à la porte.
Oh, c'est moche.
À moitié rhabillé.
Mais ça peut être traumatisant pour toi aussi.
Et toi avec ton sang dans la bouche.
Attends, et du coup, le pire, c'est qu'il a. T'es connu comme ça parce qu'il a dit...
Et donc, je suis rentrée chez moi par le Noctilien. Super d'attendre le Noctilien.
Ah ouais.
J'avais pas eu le temps de me rincer. Le sang a un peu séché. Et je suis rentrée dans ma coloc. Je leur ai souri. Il y avait du sang. Et depuis, c'était Dracula.
Ah ouais.
Ma coloc m'a dit, mais t'es un vampire.
Mais tu lui parles plus à lui, non ?
Non. Alors, après ça, j'ai appris que Romain... Coucou Romain.
Ah, il s'appelle Romain. Romain, là, on l'a balancé, là ?
Oui. Bah,
ah, on l'a balancé. Bon, okay.
Que Romain, 2 semaines après ça, partait à Tahiti pour se marier.
Quand tu penses que l'anecdote, elle ne peut pas virer au cauchemar. Ok.
C'est horrible.
Donc,
mais là, du coup, il va avoir une trace en plus. Donc, il peut...
Je ne pense pas. J'aurais bien aimé qu'il ait une,
une petite
trace de guerre.
Quoi.
J'aurais jamais... Moi, je pensais plutôt le truc de la voiture. Parce que là, je t'imaginais. Je me suis dit, genre, peut-être qu'elle ne conduit pas très bien.
J'ai raté le permis une fois, je n'ai jamais réessayé.
Ah non, il faut réessayer.
Il faut réessayer.
Ouais, mais à Paris, j'en ai jamais encore pas vraiment eu l'utilité.
Oui, et surtout à Paris, mon Dieu. Ah, oui, oh, oui, quelle oui. horreur. Bon, mais trop cool. Encore une fois, un énorme honneur pour nous et vraiment un plaisir de t'avoir.
Sur cette note joyeuse.
Super.
Ben, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir répondu avec autant de honnêteté, transparence et puis pour tout ce que tu fais accessoirement.
Mais on est entre nous, on
se sait, Et ça fait, comme j'imagine aussi, ça fait bizarre, mais nous, vraiment, on te le dit merci parce que du fond, et toutes les personnes qui nous suivent aussi te le disent parce que toutes les personnes trans qui nous suivent et non pas trans, pour eux, t'es un pilier, tu vois.
Je fais ce que je peux. Si ça marche,
et c'est déjà
mission
beaucoup.
Accomplie.
Bon, ben super.
Bon, en tout cas, donc merci beaucoup et on se donne.
Si vous avez écouté toujours pas plus, hein. Si vous avez écouté.
On filme.
cet épisode sur Spotify, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et sur YouTube, mettez le pouce bleu. Mais bon, vraiment sur Spotify, mettez 5 étoiles. Même si Lexi n'écoute pas Spotify, elle préfère visuellement sur YouTube. Mais du coup, on se dit merci encore d'avoir écouté. On espère que vous avez kiffé. Et on se dit à la semaine prochaine dans un nouvel épisode de
Contre Nature. Ciao, ciao.
Bisous.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.